Encore quelques petites informations. Oui, alors donc vous devez signer au début de chacune des demi-journées. Donc vous devez re-signer maintenant. Alors on ne va pas le faire tout de suite, hein, parce qu'il y a des intervenants qui vont commencer. Mais à la pause, à une des pauses, vous signerez la même, enfin pas la même feuille, mais une feuille analogue qui prouve que vous étiez bien là cet après-midi. Juste deux mots sur la suite. Alors, il va y avoir une série d'interventions. Après une séance de planétarium ici, et on peut.
Entre la conclusion de l'intervention de la journée et le planétarium,
voilà.
Visiter une exposition.
L'exposition sur le cerveau. Hein, vous pouvez, avant le planétarium, regarder l'exposition sur le cerveau. Alors, pour ce soir, que je précise bien, ceux qui n'ont pas leur petit ticket de restaurant, parce que j'ai distribué des tickets de restaurant tout à l'heure à tous ceux qui étaient là, mais comme tout le monde n'était pas là, donc il y a certains qui n'ont pas ce ticket restaurant, vous me leverez la main, là, puis je vous le donnerai en passant tout à l'heure. Ça vous donne l'accès donc au restaurant de ce soir. Je précise que c'est offert, hein, que vous n'avez rien à débourser aussi bien pour ce midi, pour ce soir, que pour demain midi. Alors, il y a des personnes qui peuvent être intéressées pour continuer jusqu'à minuit dans la discothèque qui est à côté. Après, s'ils veulent, mais c'est minuit 5 la date, enfin l'heure à laquelle le bus vous ramènera au parking et à la cité. Ceux qui ne veulent pas, tout le monde n'est pas obligé. J'ai donné des numéros de taxi à c'est à vous, hein, c'est ça. Hein. Donc, vous pouvez peut-être vous mettre en contact avec. Vous appelez comment? Céline, voilà. Avec Céline, si vous n'êtes pas intéressé, si vous voulez partir juste après le repas pour rentrer ou sur le parking ou à côté dans la cité universitaire et vous regrouper pour avoir un taxi qui vous amène là-bas. Quand vous demanderez le taxi, vous demanderez la cité des cartes, cité universitaire des cartes. Tout le monde connaît ça, ils ne peuvent pas vous tromper. Voilà. Donc, le départ d'ici pour le restaurant, c'est 19h15. Le même bus qui vous a amené ici, vous le prenez en face, vous traversez la rue, vous prenez en face, il s'arrêtera, de toute façon vous le reconnaîtrez, et il vous amènera là-bas au restaurant, et c'est à 0h15 qu'il vous reprendra pour ceux qui veulent rester jusqu'à 0h15. Et demain matin, pour revenir ici, c'est à 8h30 le rendez-vous sur le parking en face de la cité universitaire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Je vais passer, hein, pour ceux qui n'ont pas le ticket de restaurant, vous levez la main et je vous le donne. Voilà, c'est à
Patrick.
Donc c'est l'après-midi, il va y avoir une conférence, au moins je le regrette. J'espère qu'on aura l'occasion d'inviter de nouveau Muriel Getsch qui devait nous parler de l'histoire de l'énergie. Elle a des problèmes de santé, donc j'ai pas pu. D'habitude, chaque fois que j'arrive à remplacer les gens en pied levé, mais là c'était vraiment pas possible. Il y avait quelqu'un d'autre qui aurait pu venir, mais qui n'était pas disponible. Donc je voulais remercier les intervenants de cet après-midi, Monsieur Demenet et puis Monsieur Papon, qui était. Monsieur Papon, vous êtes déjà venu l'année dernière. Vous faites un aller-retour en train. Vous êtes venu l'année dernière. Vous êtes intervenu à l'ENSIP sur ce sujet. Donc merci de votre disponibilité. Et je passe le micro à Patrick, qui va être le président de séance de cet après-midi.
Merci. Donc, nous allons reprendre effectivement nos travaux avec un après-midi consacré au thème de l'énergie, donc avec deux intervenants. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Luc Demenet, qui est professeur des universités. Il conduit des recherches à l'Institut P' en sciences des matériaux et il enseigne à l'Université de Poitiers, à l'IUT de Poitiers, également au département génie thermique et énergie en licence professionnelle verte. Il est par ailleurs cofondateur de la licence professionnelle verte, membre du comité développement durable de l'université. Et il va intervenir cet après-midi sur l'énergie aujourd'hui, deux points, images et impact. Merci.
Bien, merci. Je voudrais tout d'abord remercier Patrick Matagne et Philippe Monnet qui ont pensé à moi pour parler d'énergie. J'espère que je ne les décevrai pas. Voilà. Bien, donc je vais vous parler de l'énergie aujourd'hui. Et le titre n'est pas de moi, ça a été suggéré par Patrick et Philippe. Donc, images et impacts. Donc, le sommaire, après une brève introduction, je ferai un historique de l'usage des énergies, quelles énergies on utilise et pour quels usages. Ensuite, j'évoquerai trois thèmes liés aux problèmes que pose l'usage de l'énergie, en particulier son usage intensif. Ensuite, j'évoquerai quelques pistes de solutions pour conclure. Bon, alors je m'adresse à des scientifiques, hein, donc là je risque de ne pas vous apprendre grand-chose. Il y a sûrement des choses que vous connaissez au moins aussi bien que moi. Mais enfin, bon, je crois que ça ne fait pas de mal de redire certaines choses. L'énergie, c'est quelque chose qu'on a de la peine à chiffrer, à exprimer, à définir tout de moins. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours, que ce soit pour se déplacer, se chauffer, se rafraîchir, s'éclairer, se nourrir, etc. Alors, donc, l'énergie se présente sous différentes formes, comme vous l'avez vu, on va dire au moins quatre formes. Mais ces formes d'énergie sont interchangeables les unes dans les autres, mais tout en respectant les lois de la thermodynamique qui sont les suivantes. Donc, le premier principe, enfin, c'est pas une loi, ce sont des principes. Le premier principe, c'est le principe de conservation de l'énergie. Tout ce que vous avez au départ, vous le retrouvez à la fin, pas forcément sous la forme que vous voulez, mais vous le retrouvez à la fin de la transformation. Et puis, par ailleurs, ces transformations sont irréversibles. Bon, là, vous connaissez ça. Lorsqu'on parle d'énergie, il est important de savoir de quelle énergie on parle. Donc, on ajoute un qualificatif, en particulier lorsqu'on parle d'énergie à l'échelle d'un pays ou à l'échelle mondiale, lorsqu'on évoque des statistiques, des consommations, des productions. Donc, on ajoute un qualificatif. Alors, lorsqu'on parle d'énergie primaire, ce qu'on appelle énergie primaire, c'est l'énergie qui n'a subi aucune transformation, comme par exemple le gaz ou le pétrole que vous extrayez, l'énergie du soleil, voilà. L'énergie secondaire, c'est l'énergie qui a subi une transformation de manière à pouvoir être utilisable. C'est typiquement les produits pétroliers qui sortent de raffinerie, c'est l'électricité qui est produite par une centrale thermique. Cette énergie, il faut la transporter jusqu'à l'utilisateur final. L'utilisateur final, c'est vous et moi, ce sont les collectivités, les entreprises. C'est l'électricité qui arrive à la prise, c'est l'essence que vous allez chercher à la station-service. Voilà. Et l'énergie utile, eh bien, c'est l'énergie finale qui prend en compte le rendement des appareils que vous utilisez pour cette énergie finale. Donc, évidemment, à chacune de ces transformations, à chacune de ces étapes, vous avez une dégradation de l'énergie, vous perdez de l'énergie. Alors, pour prendre l'exemple, je ne sais pas s'il est bien choisi, mais l'exemple d'une habitation chauffée à l'électricité, ce qui n'est peut-être pas l'idéal, eh bien, si vous partez de 100 unités d'énergie au départ, non, mais c'est fait exprès. Ah, pardon. Si vous partez de 100 unités d'énergie au départ, par exemple de charbon, de gaz, eh bien, en sortie de centrale thermique, eh bien, vous n'avez plus que 38,5 unités d'énergie. Vous avez perdu 61,5 unité parce que eh bien, la thermodynamique nous dit que le rendement des centrales thermiques actuellement au mieux c'est 38,5%. Cette électricité, il faut la transporter donc via des lignes à très haute, moyenne et basse tension. Donc là vous perdez à peu près 10% d'énergie et l'énergie qui arrive chez vous, ben, il n'en reste plus que 35 unités et comme votre habitation n'est pas parfaitement isolée, eh bien au final, l'énergie utile, c'est 22 unités d'énergie. Donc, vous voyez, on est parti de 100 pour arriver à 22. Bon, rien qu'en regardant ça, on se dit que si on pouvait faire quelque chose pour partir de 100 et arriver à beaucoup plus, on aurait fait un gros progrès. Alors, selon son métier, chacun a un moyen de chiffrer l'énergie et l'énergie, ça peut être tout petit, ça peut représenter une quantité toute petite ou bien une quantité très grande. Alors le physicien ou le chimiste, pardon. Le physicien ou le chimiste, il travaille habituellement sur des unités avec l'électronvolt. Disons l'électronvolt, c'est l'ordre de grandeur de la liaison atomique, okay, interatomique. Le thermicien, lui, il va parler en joules, enfin, je pense, j'espère. Le joule, qui est une unité beaucoup plus grande. Là, c'est le nutritionniste qui, pendant longtemps, parlait en calories, qui était en réalité des kilocalories. Enfin, bon. Voilà. Et on trouve encore ces unités-là, mises, transformées en joules sur les paquets d'aliments que vous pouvez manger au petit déjeuner. L'électricien, il utilise une unité encore plus grande que le joule, le watt-heure, ou plutôt un multiple, le kilowatt-heure, tout simplement parce que les appareils électriques ont une puissance qui se chiffre en dizaines, voire en centaines de watts, et puis ce sont des appareils que vous ne faites pas fonctionner pendant quelques secondes, mais plutôt pendant des minutes, voire des heures. Donc on utilise le kilowatt-heure. Alors tout ça, on arrive à... Il y a des moyens de transformer ces unités les unes dans les autres. Maintenant, la question peut se poser autrement si on veut voir l'énergie à une échelle beaucoup plus grande, comme par exemple pourrait le faire un économiste. Comment je vais faire pour faire, par exemple, pour établir une statistique française de la consommation d'énergie ? On consomme du charbon, ben oui, en hiver pour produire de l'électricité, par exemple, de l'essence, des litres d'essence, des mètres cubes de gaz et des kilowattheures d'électricité. Eh bien, on a introduit une unité qui s'appelle la TEP, T-E-P, tonne équivalent pétrole. C'est l'énergie dégagée par la combustion d'une tonne de pétrole. Alors, on a pris par convention, parce qu'une tonne de pétrole, selon que vous l'extrayez du Nigeria, du Venezuela, d'Arabie Saoudite ou de je ne sais où, ça n'a pas tout à fait le même contenu énergétique, mais par convention, une tonne équivalent pétrole, ça vaut 42 milliards de joules. 42 gigajoules. Pour se rendre compte de ce que ça représente, consommer une TEP par an, imaginez que vous ayez une plaque électrique de 1330 watts, vous la branchez le 1er janvier, vous la laissez brancher jour et nuit, et le 31 décembre, eh bien, vous aurez consommé une TEP. Voilà. Toujours pour fixer les idées, la consommation d'énergie en France, elle est d'à peu près 260 millions de tonnes équivalent pétrole à comparer à la consommation d'énergie dans le monde la même année, 12 700 millions de tonnes équivalent pétrole. Bon, on peut voir si on faisait le ratio consommation d'énergie par habitant, on verrait que la France est largement au-dessus de la moyenne mondiale. Bon, cette consommation d'énergie par personne, elle a augmenté au fil des millénaires de l'évolution humaine. Lorsque l'homme vivait, les premiers hominidés vivaient de la cueillette, voyez ce que leur consommation qui a été estimée, je ne me souviens plus où j'ai pris ces valeurs, mais enfin c'est des valeurs sérieuses, vous pouvez me croire. Ensuite, l'homme, au fil de son évolution, eh bien, a domestiqué les animaux, a domestiqué le feu, construit des outils. Et donc, sa consommation moyenne a fortement augmenté. Elle a encore plus augmenté suite à la révolution industrielle. Et actuellement, notre société de consommation fait que nous consommons énormément. Donc, il y a eu vraiment une croissance exponentielle de cette consommation d'énergie que l'on relie à la croissance économique des pays. Donc, par le passé, on utilisait essentiellement les énergies qui étaient à notre disposition, c'est-à-dire les énergies naturelles, renouvelables, que sont l'énergie solaire, l'énergie du vent, de l'eau. Eh bien, au fur et à mesure, au cours du temps, ces énergies ont perdu de l'importance, ont été de moins en moins utilisées, donc et remplacées par le charbon, puis par le pétrole, le gaz et également par l'hydraulique et le nucléaire depuis le milieu du siècle dernier. Cette consommation d'énergie, vous voyez, cette amplification, cette augmentation de la consommation d'énergie, elle a été énorme après la Deuxième Guerre mondiale, en particulier par un usage très important du pétrole et du gaz. Bon, en France, ça correspondait aux Trente Glorieuses. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a des accidents de parcours ici. comme le premier choc pétrolier, le deuxième, démantèlement de l'ex-URSS, etc. Mais malgré cela, eh bien, on a toujours une augmentation continue de cette consommation d'énergie primaire. Alors là, ma courbe s'arrête à l'an 2000, mais si on regarde sur les 25 dernières années, donc de 1986 à 2011, enfin j'aurais pu mettre 2012, mais enfin je ne l'ai pas fait, donc on constate là encore toujours une augmentation régulière avec la crise économique mondiale en 2009 qui s'est traduite par une moindre consommation d'énergie. Ces énergies que l'on utilise, c'est majoritairement du pétrole, vous voyez, pour un tiers. Ensuite, le charbon et le gaz naturel. Donc, vous voyez que ces trois énergies-là, ça représente plus de 80% de l'énergie primaire consommée dans le monde. Ces énergies-là, ce sont des ressources fossiles et donc épuisables au fur et à mesure qu'on en prélève dans le sous-sol, eh bien, le stock s'amenuise. Alors, qui consomme ces énergies-là? Toutes ces énergies, les pays riches, regroupés ici sous le terme OCDE, ensuite la Chine, et puis d'autres régions du monde, c'est le découpage fait par l'Agence internationale de l'énergie, d'autres régions du monde sont très peu consommatrices, comme l'Amérique centrale et du Sud, ou toute l'Afrique. Un point sur trois pays. Les USA, la Chine et l'Inde. Donc, vous voyez l'évolution de leur consommation depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui. On voit que les USA sont des gros consommateurs d'énergie, effectivement, mais avec une tendance à la stabilisation et peut-être même à une légère diminution. À côté de ça, une très forte augmentation de la consommation en Chine et avec retard en Inde, mais l'Inde suit une évolution qui pourrait s'avérer être du même type que celle de la Chine. Alors, évidemment, il n'y a pas la même population aux États-Unis, en Chine et en Inde. Alors, on peut rapporter ça à la consommation par habitant, ce qui paraîtrait un peu plus logique. Alors, c'est ce que l'on peut faire ici. Donc, on chiffre ça en TEP, toujours. En TEP par habitant, la moyenne mondiale, à peu près 1,9 tonnes équivalent pétrole par habitant. Et vous constatez eh bien, que la Chine arrive à la moyenne mondiale. Enfin, il n'y est pas tout à fait, mais enfin, ça ne saurait tarder, malheureusement. Et, ou heureusement, je ne sais pas. Et les pays riches, eux, sont largement au-dessus. La France est à peu près entre 4 et 4,5 tonnes équivalent pétrole par habitant. Maintenant, si on parle en énergie finale, donc les proportions se modifient un petit peu. Donc, c'est l'énergie, je vous le rappelle, délivrée aux consommateurs. Les produits pétroliers, c'est 41%. Ensuite, le charbon, le gaz naturel et puis l'électricité de toutes origines est inclus là-dedans, ainsi que la chaleur. À quoi sert cette énergie finale? Quels usages? Eh bien, le même pourcentage, à peu près 30% pour l'industrie et les transports, une part non négligeable de l'énergie pour des usages non énergétiques, c'est typiquement, ça inclut tout ce qui est la pétrochimie, et puis une part importante qui est indiquée sous le vocable haute, qui concerne pour l'essentiel le résidentiel et le tertiaire. J'ai mis ici les camemberts. Donc, de répartition de ces usages pour le monde et la France, et on constate qu'il y a une ressemblance assez marquée, bien qu'en France, on constate que la part la plus importante d'énergie finale, eh bien, elle est due au secteur du résidentiel tertiaire, et c'est une raison pour laquelle, si on veut consommer moins d'énergie, il y a des efforts importants à faire dans ce secteur-là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la consommation d'énergie augmentait. Alors là, je vous montre une courbe qui est franchement illisible, mais elle indique la consommation d'énergie en fonction de la richesse du pays, enfin du PIB. Alors, bon, il suffit de regarder simplement cette droite qui a été tracée sur cette échelle log-log. Bon, les pays riches ou qui ont un haut niveau de vie, vous les trouvez ici. Donc, PIB élevé, consommation d'énergie importante, et les pays peu développés ou en développement, Tchad, Cambodge, Burundi, enfin voilà, eh bien vous les trouvez ici. La moyenne étant indiquée ici avec ces pointillés-là. Alors, une petite parenthèse dans cette présentation. On consomme beaucoup d'énergie, de plus en plus d'énergie, mais on ne consomme pas que ça, on consomme des matières premières aussi. Et vous avez ici une représentation pour l'Australie de la concentration de certains minerais au fil des années d'extraction. Et vous voyez, alors bon, il y a du cuivre, diamant, or, plomb, zinc, nickel. Et vous voyez que la concentration en minerais diminue au fil des ans. Ça signifie eh bien, qu'on a des zones qui sont de moins en moins riches en minerais. Et il faut aller chercher soit à d'autres endroits, soit plus profondément. Là, vous avez la courbe qui concerne... Alors, c'était le cas de l'Australie, mais si vous prenez pour différents pays du monde... La concentration en or, en minerai d'or, mais vous voyez que là encore, vous avez une diminution très très marquée. Et ça commence à poser problème. Alors ça pose des problèmes pour l'or, mais ça pose des problèmes pour d'autres éléments comme l'indium, à raison de son usage pour le photovoltaïque, du platine, son usage pour les piles à combustible, du lithium pour les batteries. Enfin, j'imagine que Jean-Bernard Saunier en parlera peut-être demain, même sûrement demain. Alors, cette pression de l'homme sur la planète, un moyen de la chiffrer, un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais qui a le mérite d'exister, c'est l'empreinte écologique, donc qui est un indicateur qui a été mis au point au cours d'une thèse passée par un étudiant, Walker Nagel, là, sous la direction de William Rees, en Colombie-Britannique. Et donc, cette empreinte écologique, eh bien, par définition, c'est la surface terrestre ou marine qui est nécessaire à la fois pour produire ce dont nous avons besoin, mais aussi pour évacuer, éliminer nos déchets, les déchets que nous produisons. Alors, vous avez ici donc, l'indice de développement humain, donc, on va dire le niveau de vie d'un pays qui correspond à l'accès à l'eau potable, l'alphabétisation, l'accès à l'électricité, etc., un certain nombre de paramètres. Donc le niveau de vie et l'empreinte écologique qui est indiquée ici en hectares globaux. Bon, enfin, ça traduit cette superficie-là. Alors évidemment, lorsque nous étions peu nombreux sur Terre en 1961, la capacité de la Terre était celle-ci, à peu près 4 hectares globaux par personne. Maintenant, la biocapacité de la Terre par personne en 2007, vous voyez, elle est tombée à 1,8. Alors, qu'est-ce que l'on constate ici ? Eh bien, c'est que les pays peu développés ont une faible empreinte écologique, d'accord ? Et alors que les pays en développement, voire plus développés, voire très développés, eh bien, ceux-ci ont une empreinte écologique forte, c'est-à-dire dépasse la capacité que la planète a à produire ce dont nous avons besoin et à éliminer nos déchets. Disons qu'il faudrait que l'on soit que l'on reste dans cette zone-là. Alors j'en arrive maintenant à la partie concernant les problèmes liés à l'énergie. Donc une population mondiale croissante, fortement croissante, on en a parlé, ça a été évoqué, dit ce matin lors des conférences. Une élévation de niveau de vie légitime, en particulier de la part des pays en développement, et ceci implique donc des besoins d'énergie qui augmentent. Alors, quel risque avec les énergies que l'on utilise, qui sont majoritairement, je le répète, des énergies fossiles ? Eh bien, j'en ai listé trois. Les tensions liées à la stabilité politique des régions productrices, le changement climatique et l'épuisement donc de ces ressources fossiles. Alors concernant les tensions géopolitiques, eh bien, ça c'est dû au fait que les richesses du sous-sol ne sont pas également réparties sur la planète. Voyez par exemple le charbon. La majorité des réserves en charbon, c'est aux États-Unis, Russie, Chine, Inde, Australie, et puis Asie centrale un peu. La majorité du pétrole, mais vous voyez Arabie Saoudite, Iran, Canada. Concernant le gaz, c'est la Russie, c'est l'Iran. Et donc cette inégalité de répartition des différentes richesses en énergie, eh bien, font que ça peut créer des tensions. Et l'Union européenne est particulièrement sensible à ce problème-là parce que sa dépendance énergétique est de 54%. Donc ça veut dire que 54% de l'énergie qu'utilise l'Union européenne est importée. En particulier, 83% du pétrole utilisé dans l'Union européenne est importé et 62% du gaz. D'accord ? Alors, à une époque, on en pensait que les réserves en mer du Nord, en pétrole et en gaz, étaient l'Eldorado. Mais en réalité, on a passé le pic de production, qu'on appelle le pic de Hubert. Donc, on est en phase de déplétion de ces réserves-là. Et l'Union européenne s'alimente via l'extérieur, en particulier la Russie pour le gaz. Pas uniquement, mais enfin en particulier la Russie, et puis l'Asie centrale. Et vous avez tous entendu parler des problèmes, des pressions que la Russie peut exercer sur certains pays d'Europe à certains moments, dans des négociations, quelles qu'elles soient, comme par exemple les problèmes qu'il y a eu avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, il y a quelques années. Donc des lieux de tension. Alors l'Asie centrale, c'est pire, on va dire, tout simplement parce que là, c'est vraiment un nœud, un point important d'où partent les produits pétroliers, les produits d'Asie centrale. Alors, bon, bien sûr, il y a des oléoducs. On imagine d'en construire d'autres, des oléoducs et gazoducs. Mais vous voyez que si vous voulez, par exemple, sortir par le sud, accéder à l'océan Indien, eh bien, il y a des régions qui sont, on ne peut pas dire qu'elles soient d'une grande stabilité politique. Et donc, on entend parler périodiquement de problèmes, par exemple, au détroit d'Ormuz. Alors bon, ça, c'est un cas assez emblématique, mais il y a un grand nombre d'autres régions du monde pour lesquelles on a des tensions, voire des conflits ou des guerres. Alors, les besoins en énergie amènent évidemment à rechercher des ressources potentielles, et il semblerait, enfin, c'est même sûr, qu'en Arctique, eh bien, il y a des ressources substantielles. Et depuis déjà de longues années, il y a des conflits de lignes de partage du pôle Nord entre un certain nombre de pays, les États-Unis, le Canada, la Norvège et la Russie, pour comment se partager ces zones-là, qui sont des zones riches, dont le sous-sol est riche en produits pétroliers ou gaziers, et donc qui vont pouvoir être accessibles. D'autant plus accessible que, eh bien, on a la fonte des glaces en été et ce qui libère le passage soit par l'est, soit par l'ouest du pôle Nord et raccourcit sérieusement les distances plutôt que de passer par le canal de Panama ou de passer par l'océan Indien et ces zones à risque, on va dire. Un autre problème lié à l'usage de l'énergie, c'est le réchauffement climatique, un problème majeur. Alors, si on n'est pas très au fait, ça peut sembler surprenant que l'on parle de CO2 et puis d'autres gaz qui sont en très faible quantité dans l'atmosphère, que ces gaz en très faible quantité puissent avoir un tel impact. Actuellement, vous voyez que la quantité en CO2 dans l'atmosphère, en dioxyde de carbone, est faible, 0,039%. Alors, on parle plutôt en parties par million. Ça fait 390 parties par million. Et c'est grâce à ce CO2 et d'autres gaz à effet de serre, dont la vapeur d'eau, et bien que la Terre est habitable. Et donc, on a une température de l'ordre de 15 degrés à peu près sur Terre. Le problème, c'est qu'une légère augmentation de cette quantité en CO2 et des autres gaz à effet de serre, mais c'est surtout le CO2 qui est concerné puisqu'il représente au moins les deux tiers, voire les trois quarts des gaz à effet de serre concernés, eh bien, un peu plus de CO2 met la planète en danger. Pourquoi ? Eh bien, on a remarqué la forte corrélation grâce à des carottages dans l'Antarctique. Eh bien, on a la forte corrélation qu'il y avait entre, dans les millénaires passés, eh bien, entre quantité de CO2 et température que l'on peut, à laquelle on peut remonter en mesurant la variation en taux de deutérium, qui est un isotope de l'hydrogène. Donc cette forte corrélation est marquée, effectivement. Mais ce qui est inquiétant, c'est que les fluctuations qu'il y a eu sur le million d'années précédent, eh bien maintenant, on est sorti de cette variabilité naturelle. Comme vous le voyez ici, c'est ce qui est représenté en rouge. Alors, c'est vrai pour le CO2, c'est vrai aussi pour le méthane et ou l'oxyde nitreux, qui est aussi un gaz à effet de serre. Si on regarde ça sur une période plus récente, depuis l'an 1000 jusqu'à nos jours, eh bien on constate qu'à l'époque, on était à 250 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Et depuis une période qui est très en corrélation avec l'usage de la machine à vapeur de manière intensive, donc la révolution industrielle, eh bien on a une augmentation très, très importante. Alors les scientifiques ont cherché à voir quelle était la responsabilité de l'homme. Donc pour ça, ils ont établi des modèles climatiques, et ils ont essayé de simuler l'évolution de la température passée. Alors ils ont essayé de la simuler sur le globe en entier, ou les terres émergées, les océans, ou différentes régions du monde. Et pour ça, en faisant différentes hypothèses, l'une, c'était de considérer uniquement les phénomènes naturels, comme par exemple la différence d'activité du Soleil, la distance Terre-Soleil, les éruptions volcaniques, qui jouent un rôle important sur la température de la Terre. Et ça donne ces simulations, donc on appelle ça les forçages naturels, ça donne les courbes en bleu, l'épaisseur du trait correspondant aux différentes simulations, aux différents modèles. Voilà. Donc vous voyez qu'on est assez loin de la courbe noire, des courbes noires. Par contre, si en prenant en compte à la fois ces phénomènes naturels et les phénomènes dus aux activités humaines, donc les phénomènes anthropiques, eh bien, ça donne les courbes en rouge qui, elles, s'ajustent beaucoup mieux, même si ce n'est pas parfait, s'ajustent beaucoup mieux aux mesures de température. Et donc ça, c'est un des éléments qui fait dire aux scientifiques du GIEC, le groupement intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat, ou IPCC en anglais, eh bien, dans leur dernier rapport, qui est un peu daté maintenant, le prochain est pour le début de l'année prochaine, eh bien, c'est ce qui fait dire aux experts du GIEC, eh bien, que la responsabilité humaine est très fortement engagée par rapport à l'évolution des températures, en particulier sur les 50 dernières années. Alors, qui dit augmentation de température, ça se traduit d'un point de vue météorologique, même si météo et climatologie, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans la même échelle de temps, mais ce que force est de constater que les dernières années sont les années les plus chaudes que l'on ait connues depuis 1850, donc depuis que l'Office mondial de la météorologie existe. Et on a vécu, peut-être pas la peine de vous le rappeler, eh bien une période de canicule en 2003 en France. Et alors, ça ne veut pas dire que cette période de canicule est due au réchauffement climatique, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ce qui est certain, c'est que des phénomènes extrêmes tels la canicule de 2003, eh bien, risque de se produire avec une fréquence beaucoup plus grande à l'avenir. Alors, qui émet ce CO2 en particulier qui fait des dégâts sur la planète ? Eh bien, on s'en serait douté, puisqu'on consomme majoritairement des énergies fossiles qui émettent du CO2 en brûlant. Eh bien, ce sont les pays riches, la Chine. Et puis, à côté de ça, vous avez de faibles émetteurs. Si on regarde l'évolution pour les trois pays que j'avais déjà évoqués tout à l'heure, vous voyez que pour les États-Unis, on est vers une décroissance, semble-t-il. Par contre, la Chine a dépassé depuis 5-6 ans, eh bien, est le plus fort émetteur mondial de CO2. L'Inde suit une courbe inquiétante, on va dire. Si on ramène ça à l'habitant, Donc les émissions de CO2 par habitant, en tonnes de CO2 ou d'équivalent CO2 par habitant, la moyenne mondiale est à 4,4 tonnes par habitant. La Chine est déjà au-delà de la moyenne. Les pays riches sont très nettement au-dessus de la moyenne. Voilà. Donc ça, c'est pas, on ne peut pas dire que ce soit un bon indicateur. Alors, quels sont les secteurs d'activité qui sont fortement émetteurs en CO2? Ici, c'est pris du rapport du GIEC, du dernier rapport du GIEC. Vous voyez, c'est l'évolution des émissions de, en équivalent CO2 entre 1990 et 2004, donc sur une période courte, hein, 14-15 ans simplement, plus 37% pour le secteur de l'énergie, plus 32% pour le secteur du transport, plus 48% pour le secteur, disons, des terres, c'est-à-dire la, typiquement la déforestation, l'étalement urbain. Donc ça, c'est inquiétant. Ces augmentations en très peu de temps, ces fortes augmentations en très peu de temps sont vraiment inquiétantes. Alors, les scientifiques du GIEC ont essayé de voir quelle pouvait être l'évolution de la des émissions de CO2 et de gaz à effet de serre de manière plus générale dans l'atmosphère d'ici à horizon de la fin de ce siècle et qu'est-ce que ça a risqué d'induire sur les variations de température de la Terre. Alors, ils ont établi un certain nombre de scénarios qui prennent en compte l'évolution de la population mondiale, la mondialisation ou pas de l'économie, l'usage intensif des énergies fossiles ou bien un usage intensif des énergies renouvelables. Voilà, un certain nombre de paramètres et ça donne ces différentes courbes que vous voyez là. La majorité vont vers une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et donc une, se traduisant par une augmentation de température très marquée à la fin de ce siècle. Il serait raisonnable, enfin les États semblent relativement d'accord là-dessus, il serait raisonnable de limiter l'augmentation de température à plus de degrés par rapport à ce qu'elle était sur Terre au début de l'ère industrielle. Alors plus de degrés, avec la corrélation avec le CO2, ça veut dire ne pas dépasser 450 parties par million en volume de CO2, ou si on considère tous les gaz à effet de serre que l'on considère actuellement, 550 ppm. Bon, 450, on est à 392 ou 13 cette année. Je crois qu'il y a eu plus de 4, on a dépassé 400 ppm à Hawaï, les dernières mesures qui ont été faites. Donc ça implique eh bien, que l'on, ben, qu'on émette beaucoup moins de gaz à effet de serre, en tout cas pas plus que ce que la biosphère peut absorber. Et donc que toutes les régions du monde, tous les pays eh bien, sortent de leur mode de fonctionnement qui est celui d'aujourd'hui. Donc vous retrouvez une courbe que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, voilà le scénario actuel sans engagement majeur des États, donc en continuant à faire un peu les politiques, développer les politiques environnementales qui sont actuellement en place. C'est la courbe noire. Et puis la courbe qu'il conviendrait de suivre, eh bien, c'est cette zone grisée pour aller vers une stabilisation à 550 ppm d'équivalent CO2 à la fin du siècle. Malheureusement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent qu'actuellement, on est dans le pire des scénarios, enfin, disons, dans une situation où voilà les scénarios là, qui étaient la fourchette et voilà la courbe réelle. Là, ce sont les émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles. Vous voyez qu'on est dans le haut de cette fourchette, vraiment dans le haut. Si on regarde l'élévation du niveau des mers, les mesures par satellite, vous voyez qu'on est au-dessus des prévisions des modèles du GIEC. Si on regarde l'évolution, la diminution, l'étendue des mers de la mer Arctique, vous voyez qu'on est en dessous des prévisions, c'est-à-dire que les fonds des glaces arctiques marines sont beaucoup plus diminuées, a diminué beaucoup plus que ce qu'imaginaient les modèles. Et de même, l'acidité des océans a tendance à augmenter, et donc ce qui va se traduire par une diminution d'absorption du CO2 de l'atmosphère par ces océans. Le Potsdam Institute for Climate suit un suiveur du climat, on va dire. Et voici la courbe en noir, c'est la courbe qu'il conviendrait de suivre pour aller vers plus de degrés à horizon 2100. Donc c'est les émissions globales de gaz à effet de serre. La courbe en noir, c'est ce qui serait bien de suivre. En pointillé noir, ce serait pour aller vers plus 1,5 degré d'élévation de température. Et la courbe actuelle, eh bien, c'est la courbe en rouge. Et vous voyez qu'on est sur sur une évolution qui risque de nous amener vers 1 plus 3,3 avec plus ou moins 0,6, enfin plus ou moins quelque chose à horizon 2100. Troisième point que je voudrais aborder concernant les problèmes liés à l'énergie, c'est l'épuisement des ressources. Vous avez ici l'évolution au fil des ans des découvertes de gisements. Alors, il y a des énormes gisements qui ont été découverts, par exemple, ça c'est en Arabie Saoudite, au fil des ans. Et puis, vous avez en même temps, en orangé, la courbe de production. Bon, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une grande découverte, mais ces découvertes sont de moins en moins nombreuses. Et donc, on risque d'aller vers une période de production qui va aller en diminuant. Donc, la déplétion dont je parlais tout à l'heure pour la mer du Nord. Alors, bon, la date, c'est à peu près, hein, vous en doutez bien. Alors, malgré ça, eh bien, il y a des recherches qui continuent à être faites concernant les ressources en pétrole et en gaz. Alors, il y a des découvertes assez conséquentes. Vous voyez, en 2011, là, 20 milliards de barils d'équivalent pétrole. L'inconvénient, c'est qu'il y a des découvertes nombreuses sur Terre qui traduisent une importance assez conséquente, mais il y a des découvertes moins nombreuses en mer, et en particulier en mer profonde, où là, il pourrait y avoir des quantités importantes de pétrole et de gaz, mais avec toutes les difficultés que ça implique d'extraction et également les risques qu'il y a pendant ces périodes d'exploitation. Si on regarde simplement le gaz, alors on parle beaucoup du gaz de schiste, je ne m'étendrai pas là-dessus, je crois que M. Papon va en parler abondamment. Non mais un peu. Bon, ça va, très bien. Donc, cette planisphère montre les gaz conventionnels, là en vert, et à côté de ça, les gaz dits non conventionnels, dont le gaz de schiste. Et vous voyez que ces gaz non conventionnels représentent une part importante dans certaines régions du monde, en particulier en Amérique du Nord. Et puis, eh ben, il y en a beaucoup, donc on l'exploite. C'est ce qui est fait. Là, tout ce que vous voyez ici en rose, ce sont les différents bassins de gaz de schiste et les exploitations qui ont commencé de manière vraiment très, très abondante. Et d'ailleurs, l'administration américaine à l'énergie, eh bien, prévoit que ce sont ces gaz non conventionnels qui vont être majoritaires en production aux États-Unis dans les années à venir. Alors, ça se traduit comment, ça? Eh bien, il y a beaucoup d'extraction. Donc, le prix du gaz, il baisse forcément aux États-Unis. Donc, pour produire l'électricité, les Américains, au lieu de brûler du charbon, eh bien, ils vont consommer du gaz. Ce charbon, ben, ils vont quand même en faire quelque chose. Donc, ils vont le vendre à bas prix ou à un prix plus bas à l'Europe aussi, aux Chinois, mais à l'Europe, oui. Et l'Europe va utiliser le charbon pour produire de l'électricité. Et donc, l'Europe va émettre du CO2. Et on sait que l'Europe a pris des engagements relativement forts concernant le changement climatique, en particulier parce qu'elle a peu de ressources en énergie fossile, faut bien le dire. Et vous avez ici les dernières statistiques là, qui viennent de l'ABP, qui indiquent que, vous voyez, les États-Unis, ils ont émis moins de CO2, moins de carbone, parce qu'ils ont utilisé moins de charbon. Ils ont émis un peu plus de carbone du fait de leur consommation qui a augmenté en gaz, c'est ça. Mais globalement, ça fait moins. Quant à l'Europe, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? eh bien, une augmentation des émissions de CO2 dues au charbon. Voilà. Bon. Alors, quelles sont les solutions ? Les solutions, ben, on les connaît, ça tombe sous le sens, hein, c'est le simple bon sens qui parle, là, enfin j'espère. C'est d'abord consommer moins d'énergie. Vous voyez, cette course à la consommation d'énergie, elle veut pas dire grand-chose. Donc, essayer de consommer moins, améliorer l'efficacité énergétique des systèmes. Souvenez-vous de la figure que je vous ai montrée où on passait de 100 à je ne sais plus combien, 22. Eh bien, si on pouvait améliorer, en particulier les rendements des différents appareils qu'on utilise, ça nous permettrait de consommer moins d'énergie finale, donc moins et aussi peut-être moins d'énergie primaire. Utiliser des énergies qui sont peu ou pas carbonées. Alors, des énergies pas carbonées, on pense tout de suite au nucléaire, effectivement, avec, là encore, les risques que ça... Que ça implique, les risques de sûreté, de sécurité, de prolifération et également bon, les accidents comme il a pu y avoir à Fukushima. Et énergie peu carbonée, eh bien, c'est les énergies renouvelables, par exemple. Bon, mais ça, je pense que Jean-Bernard en parlera demain, donc je ne m'étends pas là-dessus non plus. Et aussi, autre voie, c'est substituer le carbone fossile par du carbone renouvelable. C'est typiquement tout l'usage de la biomasse avec une gestion correcte des forêts en particulier. Voilà. Alors, j'ai pris cette figure dans un article de Nature. Ça montre la pression humaine sur la planète, en particulier du fait de l'augmentation de la population, mais elle n'est peut-être pas responsable de tous les maux non plus. Voilà, donc est-ce qu'on va vers un phénomène de basculement qui dû à cette forte pression humaine? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et alors, je vous remonte autrement une courbe que je vous ai montrée précédemment, là encore extraite d'un article scientifique récent, assez récent. Cette fois-ci, les axes sont inversés. C'est l'indice de développement humain que vous retrouvez verticalement. En fonction de l'empreinte écologique, mais il faut faire attention, ça croît, les valeurs croient de droite à gauche. D'accord ? Donc, les pays peu développés, d'accord ? Faible pression, peu développés, faible empreinte écologique. Et vous voyez des pays, alors si vous regardez, ben on peut dire que c'est des pays qui sont de plus en plus développés, et on arrive à des pays tels les USA avec un haut niveau de vie, mais une pression sur la planète insupportable. Alors ce que dit ce scientifique dans son article ici, toujours, donc les pays suivent cette voie-là en se développant, d'accord, mais leur pression sur la planète devient de plus en plus grande et on arrive à un technotopia. Alors, c'est quelque part, j'ai traduit ça, mais je ne sais pas si c'est bien correct. Croyance aveugle au progrès technologique. Alors, on parlait de durabilité faible hein, ce matin. Alors, ça peut ressembler à ça, à mon avis. Voilà. Et ce qu'il conviendrait de faire, c'est maintenir ce niveau de vie tout en diminuant fortement la pression sur la planète, donc suivre la flèche numéro 2, en bleu, pour arriver ici. C'était la zone qui était indiquée dans le diagramme précédent. Et puis, ce qu'indique ce scientifique, eh bien, c'est la version très pessimiste, très noire de l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire que si tout le monde arrive à ce niveau, au niveau de vie, avec nos besoins en énergie, s'il ne sont pas modifiés, eh bien, une pression sur la planète qui risque de devenir insupportable. Et donc, ça peut nous amener à des guerres pour accéder ne serait-ce qu'à un peu d'énergie. Et donc, on arrive à la dystopia. Donc, c'est un monde totalitaire. Alors, la planète a une autre durée de vie que nous. Alors, on peut imaginer que lorsqu'on aura disparu dans ce schéma-là, hein, je ne dis pas que ça va arriver, j'en sais rien. On peut imaginer que la planète eh bien, se restaure et retrouve son état initial. Pourquoi pas ? Alors, en guise de conclusion, donc l'énergie, eh bien, c'est un peu docteur Mr. Jekyll et Dr. Hyde, un peu. Il y a les deux aspects. Il y a ça nous apporte du bien-être, mais ça a aussi des aspects négatifs. Il est bien évident que ces aspects négatifs, il faut les combattre, et surtout qu'ils sont très, très importants. Et il faut les combattre d'autant plus que les solutions existent, enfin, avec ma vision peut-être simpliste des choses, mais en tout cas, les solutions existent. Et il faut agir vite et ensemble, surtout, si on veut que le bien-être l'emporte sur les aspects négatifs. Alors, pour terminer, je voudrais parler de l'anthropocène. Théoriquement, on est dans l'Holocène, toujours en période en ère géologique. Beaucoup de personnes, et des scientifiques, des géologues en particulier, disent que l'on est dans l'Anthropocène actuellement, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis la création de la Terre, eh bien, que la pression humaine est telle que l'humain modifie les aires géologiques, a modifié l'ère géologique du fait de cette forte pression. Donc peut-être que cet anthropocène dans lequel on est actuellement, au dire de certains, eh bien, ne durera pas très longtemps. Enfin, en tout cas, on peut se poser la question de sa durée. Voilà, je dois avoir fini là. Voilà.
Donc, merci à Jean-Luc Demenay pour cet exposé qui nous permet effectivement d'avoir en tête un grand nombre de données extrêmement précises, référencées et qui sont propres à fonder après les débats sur les enjeux que tu as évoqués, hein, des enjeux stratégiques, géopolitiques, climatiques liés aux ressources et puis également discuter de la recherche de préconisations ou de solutions. Donc là, c'est, à mon avis, cet ensemble de données sont fort utiles pour avoir un débat qui soit informé. Et donc, je passe la parole maintenant et le micro. Voilà, j'ai bien compris.
Merci pour votre exposé. J'avais une question concernant l'importation des produits, enfin du gaz et du pétrole. Si je me souviens bien, on importait 62% de gaz et 83% de pétrole. Donc ça veut dire qu'on a 20% de production de pétrole et 40% de production de gaz en local au niveau européen. Parmi ces 20 et 40%, combien sont produits par des entreprises mais à l'étranger? Je ne sais pas si ma question est claire. Je prends des entreprises comme Total par exemple qui exploitent des puits, beaucoup de puits en Afrique et qui sont considérées au final comme une production française alors qu'en réalité elles ne le sont pas.
J'avoue franchement que je suis un peu en peine pour répondre à cette question. Voilà. Je ne sais pas, Monsieur Papon, vous savez peut-être, non ?
Quand Total produit au Nigeria du gaz ou du pétrole, c'est considéré comme une production extra-européenne. C'est clair. Hein. C'est toutes les statistiques, c'est par lieu de production. Pour l'Europe, il y a une production qui est relativement importante. C'est, vous l'avez dit, hein, c'est la mer du Nord, c'est Total en mer du Nord, c'est BP, c'est Statoil, etc. Mais la majeure partie de la production de Total, par exemple, c'est la question, c'est en dehors de l'Europe, notamment en Afrique. Je n'ai pas les chiffres statistiques.
Non, moi non plus, je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, quand la production, c'est la production à l'endroit d'où c'est extrait.
Il n'y a pas d'autres questions sur l'énergie. Ça m'étonne quand même, c'est un sujet. Encore vous, c'est bien, allez-y.
Je suis désolé, j'ai encore peut-être une question après. Vous avez beaucoup parlé d'équivalent CO2 par habitant, mais vous n'avez pas donné la quantité absorbée par la planète. Quelle quantité on émet, d'accord, mais quelle quantité on émet en plus de ce que la planète est capable d'absorber?
Alors, les chiffres, vous me posez encore une colle, là, c'est bien, là. Non, j'ai pas assez travaillé mon affaire. Non, mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question, on dit, On émet plus dans l'atmosphère que l'atmosphère ne peut absorber et que les échanges atmosphère-sol, atmosphère-océan ne peuvent gérer du fait de la vitesse à laquelle s'effectuent ces échanges. Hein, parce que s'il y a une accumulation dans l'atmosphère, c'est qu'on a modifié les échanges entre ces différents compartiments de l'atmosphère. Mais la quantité dans l'atmosphère, on va dire, d'équilibre, c'est ce que vous voulez dire, la quantité d'équilibre, je ne sais pas. Voilà, je vous l'avoue, franchement, si vous avez une troisième question, je vais peut-être dire pareil. Mais
l'ancien océanographe pense que le tiers, et il y a débat là-dessus, est absorbé par l'océan. Le tiers de ce qui est émis est absorbé par l'océan. L'océan. Oui, water. Bon, donc.
Oui.
Les arbres.
Et donc, les fromages que vous avez vus, ça vous choque pas? Ça ne provoque pas de réaction chez vous? Vous êtes partie des générations qui vont accepter qu'on ait des problèmes énergétiques. Moi, je pensais au gaz de schiste, parce que le gaz de schiste, c'est un sujet qui est quand même très, très intéressant en ce moment. Ah, étant donné que les États-Unis sont en train d'en extraire, nous, on le fera sans doute un jour. Comment on va s'en sortir si les États-Unis font leur propre loi encore sur les marchés de l'énergie? Bon, pour une anecdote, parce que j'en ai parlé à midi, à propos du gaz de schiste, j'espère que vous avez vu le superbe film avec Matt Damon, Promised Land, qui parle justement de ce problème aux États-Unis, parce que vous savez que les États-Unis créent des problèmes. En fait, après, ils produisent des films qui posent des questions sociétales et ils les posent d'une manière très, très intéressante. Donc, je vous invite à aller le voir, ce film. Voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Et le gaz de schiste, alors?
Je ne voudrais pas anticiper, parce que je crois que M. Papon m'a dit qu'il allait en parler. Donc, c'est sûr que...
Il y aura peut-être un ensemble de questions après.
Oui, d'accord. Oui, c'est ça, exactement. Peut-être qu'après les 12 exposés, il n'y aura pas qu'une seule personne à poser des questions. Moi, je fais un petit peu le... Voilà, il y en a deux, vous voyez?
Oui, en fait, moi, ma question, elle est relative au degré d'élévation de température. Moi, je suis toujours étonné un petit peu à première vue de voir l'élévation de température, parce que là, il ne fait pas particulièrement beau temps, malheureusement. Et en fait, je suis en train de me demander, vous avez fait un graphe que je trouvais à la limite assez choquant, à première vue, sur le nombre de morts liées à l'augmentation du nombre de températures. Et moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que peut-être qu'on pourrait avoir un retournement de tendance, c'est-à-dire plus de morts liées à des températures basses que hautes. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a des statistiques qui ont été faites là-dessus? Voilà.
Non, lorsqu'on parle d'augmentation de température, enfin, il faut faire attention, parce que quand on dit plus de degrés à l'échelle mondiale à l'horizon 2100, ce serait quelque chose qui serait supportable globalement, mais plus de degrés en moyenne, ça veut dire que certaines régions du monde subiraient un refroidissement et d'autres un réchauffement, et un réchauffement fort. Par exemple, l'Arctique, son réchauffement pourrait être de 6, 8, voire 10 degrés. D'accord. Bon, et d'autre part, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de la vague de chaleur en 2003 en France. J'ai simplement dit, et les scientifiques disent, que ce genre de phénomène, c'est un phénomène extrême et que leur fréquence risquait d'augmenter. Voilà ce qu'ils disent, mais ils ne disent pas qu'il y a une corrélation. Alors, ça peut être un événement extrême du type canicule, ça peut être un événement extrême de type tempête aussi, d'accord. C'est pas forcément plus chaud, d'accord.
Il y a une autre question, monsieur.
Oui, bonjour. Moi, c'est à propos du gaz de schiste, la question. Donc, c'est en France, on a décidé qu'on n'en ferait pas. Donc, voilà, la question, c'est est-ce que à cause de ce principe de précaution, on va pas justement freiner l'innovation de l'utilisation du gaz de schiste sans pollution? Et qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en arrêtant tout avant de faire vraiment des recherches approfondies dessus. Après, je ne sais pas exactement les recherches qu'on a actuellement. Mais
Oui. Enfin, juste un mot. Il ne faut pas dire que le gaz de schiste, c'est zéro pollution.
Ah, hein. Oui, oui, c'est pas hein ce que je dis. Mais non, est-ce que c'est le fait d'avoir décidé qu'on n'y touchait pas du tout, que du coup, on ne freine pas l'innovation qu'on pourrait avoir à l'utiliser de façon plus propre?
Mais c'est l'argument développé par certains, hein, en particulier à l'IFP, je crois qu'ils sont, l'Institut français du pétrole, c'est des gens qui sont assez partisans de faire des recherches et pour essayer d'avoir une production qui soit la plus propre possible. Mais par exemple, pour le gaz de schiste, on utilise du guar, qui est un produit qui permet de garder ouvert les failles, les fractures que l'on provoque. Et ce guar, il est produit en Inde. Donc tous les agriculteurs en Inde se sont mis à cultiver du guar. Vous voyez, il y a des implications sur le changement de fonctionnement des populations de certaines régions du monde parce que on a des besoins d'énergie, quoi, et donc ça a des implications au-delà de l'énergie seule, quoi. Mais Monsieur Papon.
Attendez, vous faites, vous nous convaincre. Merci de vos réactions. Patrick, je te passe. Merci, Monsieur Debenet. Ah, si, il y a une pause. Oh, moi, j'étais partie pour. Oh, on a une petite pause de 10 minutes. Non, vas-y.
Si, justement, mais on va profiter de la pause pour signer ce papier. Hein. Profitez de cette pause.